Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Loridon, Bertie Bourdon et Nicolas Sandé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par un duo, Baptiste Lénard et Jean-Guilain Meige. Suite de notre série consacrée à la rentrée diplomatique française, après avoir parlé du Liban où Emmanuel Macron s'était déplacé juste après l'explosion du 4 août dernier, après avoir évoqué le cas du Sahel où la présence militaire française échoue à répondre aux défis de la région, place ce matin à la Biélorussie.
Nous voulons que notre pays soit libre. Nous aimerions avoir des élections libres et honnêtes. Nous aimerions avoir la liberté que connaissent les autres pays européens. Et nous ne l'avons pas avec notre président actuel.
L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté, de leur souveraineté. Un dialogue entre les autorités, l'opposition et la société civile est à cet égard indispensable. Nous souhaitons que ce dialogue puisse être mis en place par les Biélorusses eux-mêmes, mais l'Union européenne se tient prête néanmoins à accompagner celui-ci.
Il n'y a pas de camp pour ou contre la Russie, ou pour ou contre les influences de l'Europe. Nous sommes Biélorusses, nous ne croyons pas que nous ayons des ennemis partout. Ce n'est pas notre opinion, c'est celle du président.
Nous, Biélorusses, ne croyons pas que nous avons des ennemis partout. Ce n'est pas notre opinion, c'est celle du président.
Depuis le 8 août dernier, les résultats contestés d'élections présidentielles, c'est une vague populaire sans précédent qui déferle sur la Biélorussie. Ce week-end encore, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Minsk et d'autres villes du pays à protester contre la réélection triomphale le 9 août dernier du président Alexandre Loukachenko. Officiellement reconduit pour la sixième fois, avec 80% des voix s'il vous plaît, face à l'égérie de l'opposition désormais réfugiée à Vilnius, Svetlana Tsikhanouskaya. Face à la gronde, l'autocrate au pouvoir depuis 1994 a fait le choix de la fermeté et de la répression, ordonnant arrestations en série, multipliant les démonstrations de force comme en témoigne cette vidéo postée dimanche où il s'affiche en gilet pare-balles et armé d'un fusil d'assaut. Du côté de la communauté internationale, les condamnations se succèdent, notamment du côté de l'Europe, à l'instar du président Macron qui, le 20 août dernier, recevant la chancelière allemande, exprimait sa vive inquiétude et appelait au dialogue. Alors comment pourrait évoluer cette situation en Biélorussie? Faut-il craindre un scénario à l'ukrainienne? Comment l'Europe peut faire entendre sa voix dans ce dossier, et la France en particulier? Comment Vladimir Poutine entend-il peser dans cette crise? Quel chemin pour cette Biélorussie de demain écartelée entre le voisin russe et l'Union européenne? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Florent Parmentier, ici avec nous en plateau. Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF et directeur de Razia Prospective, je ne me trompe pas?
Très bien.
Avec nous Olga Gilbelova, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Bordeaux. Vous êtes politologue et maîtresse de conférence au département d'études slaves à l'université Bordeaux-Montaigne. Et vous aviez créé une thèse, je vais donner le titre parce qu'elle est complètement dans les sujets qu'on va évoquer ce matin. Transformation des élites politiques en Europe post-communiste, le cas de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, on ne saurait faire plus d'actualité. On va commencer peut-être avec vous, Florent Parmentier, vous êtes avec nous ici à Paris. Ces derniers jours, on a vu ce pouvoir biélorusse accentuer considérablement la pression sur l'opposition, sur les manifestants. Alors il y a eu évidemment l'arrestation médiatique du prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, mais il y a aussi des témoignages extrêmement préoccupants avec... une personne qui a été retrouvée pendue dans un parc, une autre personne qui a été retrouvée noyée, et nul doute que malheureusement les mauvaises nouvelles risquent de s'enchaîner les jours qui viennent. On a un Loukachenko qui a une posture extrêmement martiale, extrêmement inquiétante, qui menace de refroidir des têtes brûlées, qui qualifie les manifestants de rats. On a le sentiment là, clairement, qu'on est arrivé à un point de non-retour et que, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, l'hypothèse, le scénario d'un essoufflement du mouvement paraît désormais peu possible, peu plausible.
Effectivement, si on regarde ce qui s'est passé les dernières semaines, ce qu'on voit, c'est depuis donc les élections du 9 août, ce qu'on voit, c'est une très forte mobilisation de la société et qui ne faiblit pas. Mobilisation qui s'appuie sur un certain nombre de registres d'intervention symbolique, une présence massive, et donc on a une mobilisation sociale complète. Et qui est présente à Minsk, mais aussi dans et c'est peut-être une surprise aussi dans beaucoup de villes au-delà de la capitale, et puis également dans des usines, lieux traditionnels en fait de personnes qui étaient pro Loukachenko jusqu'à présent. Donc on a quelque chose qui montre la détermination d'une partie de la société à avoir quelqu'un d'autre. C'était Madame Tsikhanouskaya maintenant, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a eu un espèce d'accord, une volonté populaire assez évidente et qu'on voit. De l'autre côté, ça c'est l'une partie du problème, on a un appareil d'État. Et cet appareil d'État, pour le moment, a vu quelques défections du côté de Loukachenko, mais des défections qui, si on les regarde, existent dans le monde culturel, existaient à différents endroits. Mais ce qu'on observe également, jusqu'à présent, c'est une solidité de l'appareil répressif d'État. C'est-à-dire, très concrètement, l'armée, les polices anti-émeutes, les services de renseignement sont assez unanimement derrière leur ce qu'ils considèrent être leur président légitime, qui n'est plus reconnu par l'ensemble de la communauté internationale aujourd'hui. Donc on a vraiment deux forces qui se font face. On a un discours d'Alexandre Loukachenko extrêmement virulent, vous l'aviez mentionné, la manière dont il traite effectivement l'opposition, et puis une symbolique derrière. Quand on sort d'un hélicoptère avec une arme à la main, ça dit quelque chose qui est tout simplement que je ne suis pas Viktor Yanukovych, je ne partirai pas chassé par la foule, etc.
Si je lui avait fui en hélicoptère, justement, précisément. Lui arrive en hélicoptère.
Et c'est précisément cette image-là, en fait, qu'il entend faire passer l'opposition, de message d'intimidation. Donc on a d'un côté une mobilisation extraordinaire, et de l'autre une volonté d'intimider.
On va évidemment évoquer le cas de l'Ukraine, parce que le parallèle, il faut le faire. Très probablement que les choses ne se passeront pas comme en Ukraine, mais en tout cas le parallèle est important à effectuer. Olga Gilbelova, première réaction sur effectivement cette répression du pouvoir qui s'accroît, et peut-être se poser une question qui est celle des racines de cette mobilisation. Je le disais dans mon introduction, Loukachenko est en place depuis 1994, il a été élu, réélu maintes fois. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça ne passe pas? Alors, je sais bien qu'il y a 10 ans, 2010, il y avait déjà eu des soucis, mais qu'est-ce qui fait que là, en 2015, ça s'était très bien passé, j'allais dire, sa reconduction. Qu'est-ce qui fait que là, les manifestants n'en veulent plus?
Oui, effectivement, ça fait déjà plus de 26 ans que Loukachenko est au pouvoir. Et il faut se souvenir d'ailleurs que Loukachenko a été élu en 1994 dans les premières et jusqu'à aujourd'hui les seules élections démocratiques. Et à l'époque, il avait une forme de capital social, il était très populaire. Il y avait cette population un petit peu nostalgique de l'Union soviétique qui était en accord avec le programme social, économique et politique qu'il proposait. Mais en espace de 26 ans, la société biélorusse a beaucoup changé et il a profondément changé. Et je pense que les événements qu'on voit aujourd'hui, cette mobilisation, c'est le reflet justement de ces changements, d'une société qui est devenue beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune. Et les nouvelles générations, les classes moyennes qui ont pu émerger aussi en espace d'un quart de siècle en Biélorussie, ils sont aujourd'hui, leurs attentes sont différentes. Leurs attentes sont différentes et c'est justement Svetlana Tikhanovskaya qui a su dans une grande mesure exprimer ses attentes et incarner cette nouvelle société biélorusse qui est certainement plus ouverte, plus européenne et qui aujourd'hui demande des libertés politiques et surtout le changement politique à la tête de l'État.
Peut-être, Olga Gilbelova, je voudrais vous entendre sur un point qui est que les manifestants anti-Loukachenko, on les voit, on les entend. Ceux qu'on entend peut-être moins, ce sont les soutiens précisément de Loukachenko. Et ils existent, ils sont là encore. Par ailleurs, il n'est pas arrivé là, cet homme, tout à fait par hasard. Il a été effectivement mis à la tête de l'État par le truchement d'élections à l'époque reconnues comme libres et transparentes. Il avait un véritable soutien populaire, une véritable assise sociale qu'il n'a pas complètement perdu. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce soutien de cette minorité ou majorité, j'en sais rien, en tout cas de cette frange de la population qui continue de soutenir malgré tout Loukachenko?
Oui, d'ailleurs, quelque chose qui a été médiatisé un petit peu moins, c'était la stratégie, le changement de stratégie de Loukachenko après les premiers jours et les premières contestations. Il a essayé d'organiser les meetings de soutien également, donc mais en sa faveur, mais qui ont réuni beaucoup moins de monde. Il n'empêche qu'il existe toujours une partie de la population, probablement plus rurale, plus âgée, qui considère toujours Loukachenko comme un président qui incarnait la stabilité, et c'est le président qui reste pour eux le garant de cette stabilité. Après, il est extrêmement difficile de se prononcer sur les proportions de cette couche de population, parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire les sondages d'opinion publique depuis quelques années. C'est extrêmement compliqué en Biélorussie, mais les estimations les plus probables, c'est qu'il y a encore à peu près 20-25, entre on va dire entre 20 et 30% de la population qui soutient Loukachenko.
Donc mais ça reste la majorité. Ça reste une minorité. On n'est pas dans une situation au fond de fracture entre deux camps équilibrés d'un point de vue démographique. Florent Parmentier, quand on voit ce qui se passe du côté de la Biélorussie, on pense forcément à l'Ukraine qui, 6 ans après l'Euromaïdan, est ensablé dans ce conflit armé larvé dont on ne voit absolument pas d'issue. Est-ce que un scénario à l'ukrainienne, et là on va pouvoir partir de cette idée-là et balayer pas mal de choses, est-ce que ce scénario à l'ukrainienne est à craindre du côté de la Biélorussie, Florent Parmentier?
Alors ce qui est frappant, c'est que si on regarde les États du partenariat oriental, c'est-à-dire les États qui sont les trois États, donc pour mémoire, du Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et les trois États d'Europe orientale, que sont la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie. L'Ukraine est le seul pays, par l'intermédiaire de son président, à ne pas avoir reconnu tout de suite le résultat des élections. On dit que ce n'était pas finalement ce qu'ils attendaient. On sent une certaine gêne, en quelque sorte, des dirigeants ukrainiens, de Volodymyr Zelensky en tant que tel, qui consiste à dire qu'il faut qu'on soit la Suisse dans ce cas-là, c'est-à-dire ne pas prendre parti, etc., mais on ne peut pas soutenir un président qui tapera contre sa population. Tout en ne voulant pas trop non plus s'imbriquer dans cette dynamique-là, en fait, qui n'est pas encore totalement maîtrisable. Les enjeux sont assez différents. Si on regarde, par exemple, le chef d'orchestre russe, Vladimir Spivakov, grand chef d'orchestre, connu comme un des artistes de l'UNESCO, d'ambassadeur de bonne volonté, etc., on a à la fois quelqu'un qui a refusé très récemment ou a démissionné d'une médaille obtenue par Alexandre Loukachenko, alors même que ce même chef d'orchestre avait signé l'annexion de la Crimée comme quelque chose d'important. Donc, du point de vue en tout cas de différents acteurs, la situation n'est pas exactement comparable pour plein de raisons. Aussi parce que et c'est pour ça d'ailleurs que Alexandre Loukachenko prend le contre-pied. La situation du leadership ukrainien était différente. Et puis quelque chose d'autre d'important à comprendre, qui était que les opposants existaient finalement dans les institutions d'Ukraine. Le Parlement était davantage ouvert, il y avait des représentants de l'opposition au Parlement, l'opposition était présente dans un certain nombre d'éléments intermédiaires, l'appareil d'État était plus divisé, on avait des membres du SBU, le service secret ukrainien, qui était anti-Yanukovych, comme d'autres étaient pro-Yanukovych, président ukrainien de l'époque. Et donc, en 2010, le président Yanukovych avait été élu dans des élections qui étaient reconnues comme... Donc, il y a effectivement un certain nombre de points de différence. Il y a peut-être deux scénarios alternatifs que nous pourrions évoquer. Le premier, c'est finalement celui de... C'est pas forcément le plus positif non plus, celui du Venezuela. On voit bien au Venezuela qu'on a un président, Nicolas Maduro, qui conserve le pouvoir avec une opposition qui est extrêmement importante et un nombre de réfugiés dans toute l'Amérique latine, finalement, du Venezuela. Donc on a la possibilité comme ça d'avoir un État séparé, en quelque sorte, avec des pro-Maduro, des anti-Maduro, et avec un certain nombre de points. Et puis le deuxième cas, qui peut être intéressant, peut-être plus optimiste, c'est le cas beaucoup plus près finalement de la Biélorussie, qui est celui de l'Arménie. On voit bien en Arménie en 2018 comment un pouvoir a cédé la place face à une opposition, mais comment finalement on assistait à une révolution politique, une révolution pacifique, si on reprend les termes de Svetlana Tsikhanouskaya au Parlement européen. Et Svetlana Tsikhanouskaya s'est empressée d'ajouter, derrière, je pense que c'est important de le garder en tête, ce n'est pas une révolution géopolitique. Et je pense qu'elle, à travers ça, elle essaie précisément de désamorcer les risques d'un parallélisme entre ce qui s'est passé en Ukraine et la Biélorussie aujourd'hui.
Et avec, du côté de l'Arménie, un chef d'État qui a su habilement jouer l'équilibre entre l'Europe et la Russie. Allant visiter Poutine et lui donnant un certain nombre de garanties afin effectivement de pouvoir ensuite en Arménie engager des réformes politiques. Olga Gilbelova, j'évoquais ce parallèle avec le scénario ukrainien. Il y a quelque chose qui est à l'origine évidemment de la situation qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine, c'est l'intervention militaire russe. Est-ce que dans le cas de la Biélorussie, on pourrait avoir une intervention militaire décidée par Vladimir Poutine pour venir en aide à Loukachenko?
Donc, il faut dire que jusqu'à présent, la Russie a resté assez prudente, assez neutre vis-à-vis de ce qui se passe, comme si Poutine observait finalement qui va remporter cette opposition. L'idée de l'intervention militaire ouverte est peu probable en réalité. Pourquoi ? Parce que déjà pour la justifier, pour légitimer, il faut qu'il y ait une attaque extérieure. Donc tant qu'il s'agit d'une affaire intérieure, et pour l'instant on considère qu'il s'agit d'une affaire intérieure, d'ailleurs l'opposition souligne beaucoup aussi et joue beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une affaire intérieure, et s'il n'y a pas de menace extérieure, il n'y a pas légitimement de possibilité de faire venir l'armée russe. Donc même si Loukachenko essaye de jouer, et il a changé son discours d'ailleurs de manière très radicale, parce que pendant la campagne électorale, il a sous-entendu une menace en provenance de la Russie pour déstabiliser son régime. Son discours changé d'une manière radicale à la suite donc des contestations suite aux élections, et il commence à évoquer une idée d'une invasion éventuelle de l'OTAN. Mais ce changement de discours est extrêmement peu crédible. Par ailleurs,
pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce que c'est juste à l'adresse de son opinion, ou est-ce que c'est aussi une manière de préparer les esprits à l'idée d'une intervention russe précisément ?
C'est surtout une stratégie désespérée de retenir son pouvoir personnel. Donc il est quand même extrêmement défié. Donc son pouvoir n'a jamais été aussi fragile. Et c'est une forme de panique en quelque sorte. On va changer radicalement, on va essayer tous les scénarios pour voir lequel lui sera le plus profitable. Donc et ce retournement, il va dans ce sens-là, mais ce n'est pas véritablement dans l'intérêt de la Russie et de Poutine aujourd'hui avoir une nouvelle intervention. Et justement, je pense qu'aujourd'hui la plupart des acteurs extérieurs, ils cherchent à éviter ce qui s'est passé en Ukraine. Donc la crise ukrainienne a été vraiment un grand changement quand même géopolitique dans cette région, et aujourd'hui personne ne veut avoir le même type de situation. C'est pour ça que les acteurs extérieurs restent extrêmement prudents vis-à-vis de cette situation. Mais par ailleurs, la Russie a d'autres moyens pour intervenir sans une intervention militaire.
Lesquels,
c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc les moyens hybrides. Donc c'est les différents moyens de pression économique, de pression politique, parce qu'il y a des acteurs qui sont quand même peuvent être ouvertement ou d'ailleurs d'une manière un petit peu plus dissimulée soutenus pour la Russie. Par ailleurs, il faut savoir que quand on fait la comparaison avec le Maïdan, il y avait quand même les acteurs ukrainiens opposés ouvertement à la Russie, ce que n'est pas du tout le cas en Bélarus. Et justement, comme Monsieur Pormentier l'a souligné, Svetlana Tikhanovskaya et toute l'opposition, d'ailleurs, souligne en permanence dans son discours qu'ils ne sont pas anti-russes et que l'opposition n'est pas du tout anti-russe. Et quel que soit l'acteur politique qui sera à la tête de l'État biélorusse, il sera toujours prêt à coopérer avec la Russie.
Ouais. Parmi les leviers effectivement de Poutine, il y a effectivement le levier économique. La Russie, c'est le premier marché pour la Biélorussie, donc il y a évidemment un levier très important. Florent Parmentier, sur cette question de l'intervention militaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, Olga Gilbelova nous disait c'est assez peu probable. D'abord, effectivement, on a besoin de moyens humains et financiers. Or, c'est vrai, la Russie est déjà déployée sur beaucoup de terrains. Par ailleurs, l'économie russe n'est quand même pas en très bonne santé. Donc, ça complique un tout petit peu la chose. Sur l'intervention et puis sur le rapport entre les deux hommes. Parce que visiblement, il semble que les rapports n'aient pas toujours été tout à fait fluides, disons, entre Poutine et Loukachenko. Je voudrais que vous nous en disiez quelques mots, Florent Parmentier.
Je crois qu'Olga Belovagil a très bien résumé la situation. La première chose, c'est l'attentisme de la Russie. Car, pour l'instant, il y a deux scénarios de la part de la Russie. Soit Alexandre Loukachenko reste au pouvoir, mais de manière tellement affaiblie qui naturellement il sera attiré finalement par la Russie. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer que pour la première fois, c'est pas la Russie qui a reconnu en premier le résultat de l'élection, c'est la Chine. La Chine l'a fait avant la Russie, ce qui est en soi quelque chose d'assez étonnant, mais qui montre, voilà, et c'est le second point sur lequel vous vouliez attirer mon attention, et les relations entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko sont assez mauvaises. Pendant très longtemps, en quelque sorte, Alexandre Loukachenko a été le bon soldat de l'intégration dans l'espace post-soviétique avec la Russie. Et puis, il s'est aperçu, voilà, qu'il y avait des intérêts qui pouvaient être antagoniques. Pendant un temps, la Russie a subventionné une partie de l'économie à travers le gaz et le pétrole. La Biélorussie est à la fois à des industries classiques dont on a pu entendre parler autour de l'azote, du phosphate, enfin de, en tout cas des du potassium, beaucoup donc de ressources, quelques ressources comme celle-ci, des ressources industrielles. Et ces ressources industrielles dépendent pour le moment de l'État biélorusse en partie, pour une raison simple, qui est tout simplement que ça permettait, c'était l'une des promesses du contrat social, social paternaliste, si on peut appeler ça comme ça, d'Alexandre Loukachenko. Mais si demain l'opposition venait avec un plan de réforme radicale, c'est-à-dire de changement économique, de privatisation, qui sera demandé par un certain nombre d'acteurs internationaux, vraisemblablement, les premiers acteurs qui viendront sur ce terrain-là, parce qu'ils seront en connaissance, en quelque sorte, seront des acteurs économiques russes. Donc on pourrait effectivement, ça veut dire qu'à côté de ce scénario du « j'achète Alexandre Loukachenko à la baisse », c'est-à-dire quand il sera vraiment tout en bas et qu'il ne pourra que dépendre que de nous, le scénario inverse qui consiste à dire « il y aura une opposition qui viendra au pouvoir », la première chose est de ne pas s'antagoniser un autre pays après l'Ukraine. Et puis, surtout, il n'y a pas vraiment d'enjeu identitaire comme pouvait l'être Sébastopol dans les frontières entre la Biélorussie et la Russie. Donc on peut penser que ce scénario de pour l'instant est le plus néanmoins, ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'au Parlement européen, lors de l'édition de Madame Tsikhanouskaya, il y a eu deux points d'opposition radicaux qui se sont opposés. Un député de gauche espagnol qui lui de vraiment prenait à partie Madame Tsikhanouskaya en disant « mais vous vous rendez compte que vous allez à la guerre et que vous êtes là pour, en quelque sorte, être sur un discours très qui suscitera la guerre, en tout cas une réaction de la Russie telle qu'on aura une nouvelle Ukraine ». Et puis vous avez un député des conservateurs du PiS, des partis au pouvoir polonais, qui appelait déjà en fait à avoir des actions de sanctions contre la Russie dès maintenant, ce qui n'a pas vraiment lieu d'être en quelque sorte. Donc on voit bien que deux réactions extrêmes, mais qui ne sont pas dans le sens de la diplomatie.
Oui, ce qui nous dit aussi beaucoup des divergences d'approche au sein de l'Union européenne, on y reviendra peut-être. Mais justement sur la question de l'Europe, Olga Gilbelova, on faisait référence tout à l'heure à l'Ukraine. On se souvient que les manifestations de l'Euromaïdan, elles avaient été déclenchées par ce volte-face du gouvernement ukrainien qui avait décidé de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie, même si en réalité, évidemment, les racines de cette contestation allaient bien au-delà de la question des liens avec l'Europe. Mais si on regarde du côté de la Biélorussie, est-ce que c'est un enjeu que celui du lien futur avec l'Union européenne, de celui des valeurs intrinsèquement portées par le projet européen, ou est-ce que finalement c'est pas le sujet pour les manifestants?
Pour l'instant, si vous voulez, dans le discours de l'opposition, il n'y a pas du tout la focalisation sur l'Europe. Il y a plutôt le discours qui dit on veut coopérer avec tout le monde. Donc on le comprend aussi, ce discours, par le désir d'éviter la confrontation à la Russie, justement de ne pas opposer les deux projets et les deux modèles. Derrière le discours, il faut dire qu'il y a relativement peu de liens entre l'Union européenne et la Biélorussie, parce qu'il y a quand même, la position de Loukachenko a été toujours plutôt hostile, et ce n'est qu'à partir de 2015-2016 qu'on a assisté à une forme de rapprochement et une coopération. Par ailleurs, l'Union européenne a cherché aussi à distinguer ces dernières années entre la coopération pragmatique avec le régime, le soutien de la société civile, pour essayer de faire évoluer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il est difficile de s'attendre que l'Union européenne puisse apporter une aide économique, par exemple, très importante à la Biélorussie. Donc, si vous voulez, c'est le mode modèle est attractif de manière générale diffuse, mais il y a beaucoup moins d'engagements concrets que d'ailleurs l'Union européenne pourrait mettre aujourd'hui sur la table.
Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, on est avec Florent Parmentier et Olga Gilbelova. On parle de la Biélorussie, faire entendre la voix de l'Europe face au Kremlin. Regardons justement la voix du Kremlin, en tout cas celle de Sergueï Lavrov, qui parle précisément de l'égérie de l'opposition biélorusse, Svetlana Tsikhanouskaya. On l'écoute tout de suite, on en reparle.
Étrangement, Svetlana Tsikhanouskaya se trouve en Lituanie au moment où elle dit vouloir aller voir sa famille. On dirait qu'ils ne lui ont même pas laissé le temps de se détendre. Elle commence déjà à faire des déclarations politiques, de plus des déclarations assez fortes, exigeant des grèves et des manifestations. C'est très révélateur qu'elle s'exprime le plus souvent en anglais, plutôt qu'en russe ou qu'en biélorusse.
Voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette opposante. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir, Florent Parmentier, sur ce commentaire de Sergueï Lavrov qui dit « Mais c'est d'ailleurs pas étonnant qu'elle parle en anglais. » Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à polariser les choses, précisément, à mettre en face le bloc occidental et l'ancien bloc soviétique. Enfin, c'est quoi le jeu de Lavrov, là?
Ce qui est intéressant de rappeler, donc, c'est que le métier de Svetlana Tsikhanouskaya était précisément d'être professeur
d'anglais.
Effectivement, il y a,
assez normal,
y a pas voilà de qu'elle maîtrise très bien, mais on lui a reproché pendant la campagne électorale, d'ailleurs, de faire beaucoup de discours, la plupart de ses discours en russe, et donc elle a dû parler biélorusse à un certain moment. Donc cette question est en soi assez curieuse. Je pense qu'il faut voir comme un moyen, en quelque sorte, de pas nécessairement de soutenir Loukachenko, mais plutôt de faire un peu pression sur l'opposition. On pourra vous tolérer, mais sous certaines à condition de pas franchir un certain nombre de lignes, ou en tout cas ne pas remettre en cause les relations particulières entre la Biélorussie et la Russie.
Olga Gilbelova, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre qui est cette femme qui n'était pas du tout prédestinée à faire de la politique, a jamais voulu en faire, et qui se retrouve chef de file de l'opposition? Qui est-elle? Comment est-elle arrivée là?
Justement, Svetlana Tsikhanouskaya, donc vous l'avez rappelé, elle était professeure d'anglais, elle était traductrice, et surtout ces dernières années, elle s'occupait de ses enfants. Et s'il a pu d'ailleurs s'enregistrer en tant que candidate pour les élections, c'est justement parce qu'elle a été considérée comme quelqu'un complètement inoffensif par Loukachenko, en revanche qui a écarté les trois candidats qu'il considérait le plus dangereux, y compris le mari de Madame Tsikhanouskaya, qui était un blogueur, qu'on pourrait d'ailleurs comparer d'une certaine manière de Monsieur Navalny, dont on parlera tout à l'heure en Russie. Donc, c'était quelqu'un qui a créé une chaîne sur YouTube où il diffusait les reportages assez critiques, sur Loukachenko, en allant interviewer justement les simples Biélorusses un petit peu partout dans le pays, et qui, est devenu connu surtout grâce à cette critique, de régime en place de Loukachenko. Et c'est lui qui voulait concourir. Et l'enregistrement de Svetlana Tikhanovskaya était une grande surprise pour tout le monde. Et il a dû, en espace de quelques semaines, faire une forme de son entrée en politique. Elle-même, elle ne se destinait absolument pas. D'ailleurs, jusqu'à présent, son discours, c'est la demande d'organisation de nouvelles élections. Elle-même, elle ne souhaite pas...
C'est son seul programme.
C'est son seul programme, tout à fait. Il ne veut pas être présidente avec un programme de président. Mais c'est aussi quelque chose d'important pour comprendre. Et se retrouve propulsée à la tête de l'opposition, n'étant pas du tout le candidat de l'opposition, ce qu'on pourrait qualifier de l'opposition traditionnelle. Parce qu'il y a quand même, malgré le paysage d'un État autoritaire où tous les partis d'opposition ont été marginalisés, il y a quelques partis d'opposition qui existent. Il y a plusieurs candidatures, plusieurs personnalités qui se sont réunies donc derrière elle, mais le mouvement d'opposition, justement, il reste très diffus. Et vous avez déjà bien souligné le fait que c'est surtout les personnes qui viennent du monde de la culture qui ont rejoint notamment le fameux conseil de coordination, mais toutes ces structures, ils sont en train de se créer. Derrière, il n'y a justement pas de quelque chose d'institutionnalisé, d'organisé, c'est une forme d'improvisation qui se fait sous nos yeux pour un petit peu organiser, cimenter donc cette opposition en face. Et c'est à la fois... Ça peut être et l'avantage et l'inconvénient, parce que en face, vous avez quand même un président qui tient sous son contrôle l'appareil de l'État, notamment l'appareil de répressif, et ce mouvement très populaire, ce mouvement de mobilisation, mais qui n'est pas du tout structuré.
Alors, l'avantage, ça serait quoi, justement, qu'il soit pas structuré, qu'il soit pas formalisé? En quoi ça constitue un atout?
Justement, c'est très difficile de le qualifier de d'une menace ouverte. On ne peut pas appliquer la rhétorique, si vous voulez, d'un coup d'État. Donc, on ne peut pas les accuser de faire un coup d'État, de renverser le régime. Donc là, c'est Loukachenko, vraiment, face à ce mouvement, il est un petit peu désemparé dans ce sens-là.
Oui, mais sauf que c'est son objectif premier. Vous le dites vous-même, son objectif, c'est de faire tomber Loukachenko et d'organiser des nouvelles élections. Est-ce que, compte tenu justement de la nature même de ce mouvement, elle a une chance d'y parvenir?
Ben aujourd'hui, tout va se jouer sur une longue durée. Donc, est-ce que les mobilisations vont se perdurer dans le temps, ou on va dans le scénario vénézuélien, on a déjà évoqué, où on va avoir un petit peu de centres de puissance avec des soutiens différents. Donc, c'est vrai, Loukachenko de son côté, il joue un petit peu le pourrissement de la situation. Donc, il espère que justement les ouvriers ils vont arrêter de faire des grèves parce qu'il faut bien qu'ils travaillent, qu'ils touchent leur salaire. Qu'avec l'automne, les gens ils vont se démobiliser. Il joue beaucoup cette carte d'étouffer le mouvement dans la durée et surtout après des répressions ponctuelles. D'ailleurs, il y a déjà eu deux personnes de conseil, donc de coordination, qui ont été arrêtées hier.
Florent Parmentier, si ça dure, on voit mal comment ça peut aboutir à la chute de Loukachenko. D'abord parce qu'effectivement, les manifestants à un moment vont cesser de descendre dans la rue, que par ailleurs la pression va se poursuivre, la pression physique des manifestants dans la rue, mais aussi la pression dans les usines. Il faut rappeler qu'on est en Biélorussie, on faisait tout à l'heure la comparaison avec l'Ukraine, mais au fond, peut-être que le parallèle le plus judicieux serait avec la Pologne de Solidarność, où à l'époque, effectivement, tout part d'une grève. En réalité, c'est des grèves dont il est question en Biélorussie, avec ces usines où les ouvriers traditionnellement soutiennent Loukachenko, et là, d'un coup, effectivement, s'élèvent contre lui. Sauf qu'en réalité, là-bas, ces ouvriers, ils sont aussi mis sous pression. Il n'y a pas de CDI en Biélorussie, on est tout le temps en CDD. Donc, si vous voulez conserver votre travail, il faut continuer à soutenir Loukachenko. Si ça dure, c'est plutôt bon pour Loukachenko.
À condition que, et c'était jamais totalement écrit, à condition que son appareil d'État soit totalement derrière lui. Car ce qui se passe, effectivement, c'est un divorce entre la société, une grande partie de la société, disons, et l'État. Et pour le moment, effectivement, on est dans cette dualité-là. C'est aussi ce qu'on avait dit, cette stratégie du pourrissement au sujet des développements après l'Euromaïdan. On a eu cette situation dans laquelle le président Yanukovych a laissé s'installer une manifestation sur place, puis avait essayé de s'en débarrasser, puis etc. Et finalement, le massacre qui a lieu en février 2014 vient plusieurs mois, après plusieurs mois d'occupation. Ce qu'essaient de faire les forces de l'ordre biélorusses aujourd'hui, c'est d'empêcher l'installation sur la place d'un certain nombre de personnes, de manifestants, etc. Je pense que c'est leur objectif à court terme, et celui-ci est de montrer, entre guillemets, l'unité de l'appareil d'État. Je pense que c'est ça vraiment le point, parce que derrière l'unité de l'appareil d'État, le message que veut envoyer Monsieur Loukachenko est double. C'est à la fois donc de montrer qu'il sera déterminé et que s'il le faut, il mettra le prix du sang derrière. Et puis c'est aussi c'est ce moyen finalement voilà qu'il a de réaffirmer, de trouver une base et peut-être de diviser l'opposition aussi. Parce que effectivement l'avantage pour l'instant de Madame Tikhanovskaya c'est une candidate à laquelle on peut difficilement opposer quelque chose, ou en tout cas le fait de refaire des élections est extrêmement populaire pour la bonne et simple raison que ce que demande en fait effectivement la majorité des personnes sur place, c'est davantage d'état de droit. On n'est pas dans quelque chose où on a envie d'être. Et d'ailleurs, même quand on regarde dans les manifestations, il n'y a pas de drapeau pro-européen, mais pas parce qu'on n'est pas sur un État totalement européen, mais il n'y a pas de revendication du drapeau européen parce que ce serait vu comme une menace géopolitique et donc ça viendrait polluer en quelque sorte le point de l'opposition. Donc on est dans cette situation effectivement où une bonne partie de la réponse aujourd'hui est du côté de la défection de l'appareil d'État, ce qui est certes et de l'organisation de la société par rapport à ces manifestations.
L'appareil d'État qui aujourd'hui ne montre pas de signe de faiblesse.
Dans quelques éléments, oui, on a eu un député biélorusse en Slovaquie qui a démissionné, etc. Un ambassadeur. Mais ça ne fait pas effectivement une majorité sociologique, et en tout cas, ce qui aurait pu avoir lieu dans les premiers jours après les manifestations ne s'est pas produit. Mais on a aussi une population qui arrivait à un certain degré de saturation et d'auto-organisation. Peut-être que l'une des éléments qui n'existait pas aussi précisément en 2015 ou en 2010, c'est une application comme Telegram qui permet une auto-organisation de la société et des manifestations et une coordination, une coopération à large échelle qui n'existait pas du temps de Solidarność en quelque sorte.
Olga Gilbelova, on a parlé de l'Europe, de la Russie, on n'a pas encore parlé des États-Unis. L'opposante Svetlana Tsikhanouskaya a rencontré en début de semaine le numéro 2 du département américain. Jusqu'où est-ce que l'administration américaine est disposée à soutenir cette contestation, sachant que d'abord, un, on est quand même en pleine campagne américaine, inutile de le rappeler, et donc on voit assez mal une administration se mouiller dans un dossier de politique extérieure. Enfin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et que, par ailleurs, il faut rappeler que, visiblement, on était plutôt dans une séquence de rapprochement entre Washington et Minsk, puisque Mike Pompeo avait rendu visite en début d'année à Loukachenko et qu'on avait là entrevu quelque chose de l'ordre d'un réchauffement, peut-être pas une normalisation, mais en tout cas un réchauffement. Est-ce que les États-Unis peuvent soutenir la contestation, peuvent agir sur un Loukachenko qui semble bien déterminé à s'accrocher au pouvoir, Olga Gilbelova?
Très sincèrement, je crois pas. Je pense que, du point de vue de politique étrangère américaine, la Biélorussie est vraiment loin d'être l'un des pays prioritaires. Donc, c'est pas du tout, donc, il y aura un discours rhétorique, mais il y a très moyen de pression, parce que de toute façon, la Biélorussie a été classée quand même comme l'un des pays de l'axe du mal entre la Corée du Nord et l'Irak au début des années 2000. Donc, depuis, il y a eu effectivement le retour de l'ambassadeur déjà américain à Minsk et la visite de Mike Pompeo en février 2020. Mais c'était les premiers signes sans qu'il y ait trop d'engagement. Il n'y a pas de rapport économique véritablement. Donc, il y a très peu de moyens de pression sur le régime de Loukachenko. Et puis, c'est pas véritablement un enjeu important.
Tout se jouera en interne, vous êtes d'accord avec Florent Parmentier. Tout va se jouer en interne. Oui. Dans la société biélorusse. Vous parliez tout à l'heure de Navalny. Le week-end dernier, l'opposant russe a été transféré en Allemagne après avoir été empoisonné. On en parle tout de suite.
Ja, was an Navalny anbelangt, so waren wir natürlich.
Le cas d'Alexei Navalny est un cas qui m'a vraiment bouleversé quand j'ai appris l'information. Il est à l'hôpital. Ce qui est important aussi, c'est que l'on arrive à savoir exactement comment on a pu en arriver là. Nous allons exiger d'avoir des explications, car ce qu'on entend n'est pas très clair et il faudrait que les conditions de cet empoisonnement soient plus transparentes.
Voilà, c'était Angela Merkel qu'on entendait à l'instant. Et si l'empoisonnement n'était pas sûr au départ, qu'il n'était qu'une hypothèse, il a bien été confirmé par l'hôpital de Berlin. On a évoqué l'utilisation d'une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, qui est un neurotoxique qu'on retrouve notamment dans le gaz sarin ou le Novichok. Et Navalny a donc été placé en soins intensifs où il est toujours en coma artificiel. On va essayer d'y voir un tout petit peu clair sur cette affaire, surtout de comprendre aussi les conséquences de tout cela pour la Russie. Michel Etchaninov, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine et puis vous aviez écrit il y a quelques années dans la tête de Vladimir Poutine. On a désormais, Michel Etchaninov, la confirmation que Navalny a bien été empoisonné. En revanche, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir par qui. Ce qui se dit, c'est que, a priori, ce ne seraient pas les services secrets russes parce qu'ils n'auraient pas forcément intérêt à tout cela. En tout cas, Poutine pourrait être embêté par l'idée de cet empoisonnement et que, par ailleurs, il y a bien d'autres pistes qui sont possibles. Comment vous voyez les choses, vous, Michel Etchaninov? Quelles sont les différentes hypothèses de cet empoisonnement qui, maintenant, est avéré?
Alors, en fait, d'abord, du point de vue des Russes, pour eux, cet empoisonnement entre dans une histoire qu'ils connaissent. D'abord, une histoire longue, celle des empoisonnements politiques qui datent de l'époque soviétique. En 1921, Lénine avait créé un laboratoire des poisons pour éliminer discrètement des opposants politiques, notamment à l'étranger. Ce laboratoire a été finalement est revenu de ses cendres sous l'époque de Vladimir Poutine. Et depuis plusieurs années, on est confronté très régulièrement à des empoisonnements, soit d'anciens membres des services secrets. Vous vous souvenez d'Alexandre Litvinenko en 2006, ou alors plus récemment de Sergei Skripal en Angleterre en 2018, ou alors de journalistes ou de membres de l'opposition. En 2004, Anna Politkovskaya, la journaliste qui finira sous les balles de tueur deux ans plus tard, prenait l'avion pour Rostov et elle a bu du thé dans l'avion et elle se sentit très mal, elle a sans doute été empoisonnée. Donc, du point de vue des Russes, déjà, c'est un acte qui est signé par les services. Alors ensuite, du point de vue des hypothèses, on rentre, comme toujours en Russie actuellement dans ce genre de cas, dans ce que j'appelle une sorte de boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile de mener une enquête indépendante en Russie, puisque la justice est instrumentalisée, que le pouvoir politique va dire à qui profite le crime, non pas à Poutine, mais à ses opposants. Bref, toutes sortes de contre-feux vont être allumés. Hier, à la Douma, au Parlement russe, on a créé une commission spéciale pour enquêter sur le mal que pourrait faire cette affaire d'empoisonnement à l'État russe. Vous voyez, donc on allume des contre-feux. On est dans une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne saura jamais, ou alors dans quelques décennies, qui est le commanditaire de cet assassinat. Ce qui est évident, si on regarde les choses de manière très simple, c'est que Navalny est devenu, au fil des années, l'opposant principal de Vladimir Poutine. Il se considère comme le possible futur président de la Russie. Il agit de la sorte pour le devenir, première chose. Et deuxièmement, le moment. Il est empoisonné au moment où des contestations fortes sont en train de se passer, à la fois au Bélarus et dans l'extrême-orient russe. Et Navalny, je regardais encore tout à l'heure une de ses vidéos du 13 août, faisait le rapprochement entre tous ces protestations. On disait, voilà, soutenons les Bélarusses qui protestent contre Loukachenko, soutenons ceux qui, à Khabarovsk, dans l'extrême-orient, manifestent contre l'éviction du gouverneur. Donc, Navalny est au centre aussi d'une... Alors, il est évidemment... C'est trop très prématuré pour en parler, mais au centre d'une volonté de faire en sorte qu'en Russie aussi, notamment par la voie électorale lors des élections du 13 septembre prochain, on proteste contre la politique de Vladimir Poutine.
Oui, mais on peut se dire que du côté de Poutine, effectivement, la mise à l'écart de Navalny peut constituer une difficulté. Le champ de l'opposition va s'ouvrir, va devenir donc plus incertain et donc plus menaçant. Tout à l'heure, Olga Gilbelova faisait le parallèle entre Navalny et le mari
de Nadezhda Talokonnikova.
Exactement. Est-ce que finalement, effectivement, le voir ne plus être le premier opposant, est-ce que ça ne constitue pas une menace en réalité?
Je crois que c'était l'opposition de Navalny qui était une menace. C'est-à-dire que Navalny n'est jamais cité par Poutine. L'empoisonnement de Navalny n'a même pas été mentionné, à ma connaissance, dans les programmes de télévision de la première chaîne russe. Et surtout, Navalny, au fil des années, avait accumulé une forte popularité, notamment auprès des jeunes. Il y a l'année dernière, l'été dernier, il y avait beaucoup de mineurs, il y a deux ans aussi, de moins de 18 ans, qui se réclamaient de Navalny, qui manifestaient dans les rues des villes russes pour protester contre les fraudes aux élections, contre Poutine en général. Donc en fait, Navalny est quand même devenu, avec les années, avec ses vidéos contre la corruption, ses enquêtes qui sont très bien faites, une figure importante de l'opposition. Donc je pense qu'il faut, évidemment, pour l'instant on ne sait rien, mais politiquement, c'est aujourd'hui, on assiste à la tentative d'élimination d'un opposant qui est tout de même gênant, peut-être pas encore dangereux, mais gênant pour le pouvoir russe.
Et à qui ça pourrait profiter? Parce que en fait, on dit depuis tout à l'heure l'opposition russe, on devrait dire les oppositions russes, parce qu'elle est extrêmement diverse en réalité. On va avoir là, forcément, parce qu'il ne sera plus là pendant au moins des mois, peut-être ne reviendra-t-il d'ailleurs jamais dans le paysage politique russe, à qui ça pourrait profiter? Dans le front anti-Poutine?
Profiter, je pense que c'est un terme qu'on peut pas utiliser vu l'ampleur quand même du drame qui est en train de vivre avec ces Navalny. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années
politiquement, j'entends. Hein.
Oui, tout à fait. Mais dans les années précédentes, Navalny n'occupe plus tout seul le devant de la scène. L'année dernière, il a une figure à émerger qui est proche de lui, qui s'appelle Lubov Sobol, par exemple, une femme qui est devenue un peu la tête de proue de l'opposition de l'automne dernier. Donc en fait, il y a d'autres personnalités de l'opposition qui sont plus jeunes, qui sont principalement actives sur Internet, qui ne font pas partie de l'opposition évidemment présente à la Douma, au Parlement. Mais il y a des figures, il y a des personnes qui, je pense, sont capables de prendre la relève d'un mouvement aujourd'hui qui dépasse la seule personnalité de Navalny, c'est-à-dire d'un mouvement de personnes qui souvent sont nées sous Poutine, hein, ce que j'appelle des Poutines natives, des gens jeunes ou des gens qui sont plus jeunes, pas jeunes forcément, mais indignés par la corruption endémique ou par la mainmise du pouvoir central sur les pouvoirs locaux et qui sont prêts à prendre la relève. Donc je crois que politiquement, des nouvelles figures sont en train d'émerger et si Navalny est effectivement empêché d'agir dans les mois qui viennent, des proches de lui vont pouvoir apparaître et mener le front de la contestation.
Encore un point, Michel Ilchaninov, et puis je vais faire réagir nos invités Florent Parmentier et Olga Gilbelova, mais faisons une hypothèse qui est assez peu probable au regard des échanges qu'on a depuis une quarantaine de minutes maintenant, c'est-à-dire l'hypothèse d'une chute de Loukachenko. On a compris, pour le moment, l'appareil d'État est quand même bien en place, et c'est assez peu probable. Mais la probabilité est toujours là. Quelles conséquences pour Poutine si Loukachenko venait à tomber ?
D'abord, une nécessité de pouvoir retisser les liens et de pouvoir, entre guillemets, prendre le contrôle du nouveau pouvoir. En tout cas, essayer de ne pas se l'aliéner pour être vraiment sûr que le nouveau pouvoir va tisser de bonnes relations avec la Russie. Sur le plan intérieur, ça serait une victoire pour tous ceux qui, disons, s'irritent ou sont fatigués du règne sans fin de Vladimir Poutine, notamment dans la jeunesse. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces vidéos de Navalny qui passent sur Internet, on voit que les Russes font le lien. Les Russes qui regardent Internet, qui ne sont pas zombifiés, comme on dit en Russie, par la télévision, qui regardent Internet, font le lien entre ce qui se passe entre les personnes qui manifestent à Minsk, les personnes qui manifestent à Khabarovsk. Alors, ce sont des situations évidemment très différentes. On ne peut pas les assimiler. Mais disons que pour quelqu'un qui est indigné de la modification de la Constitution qui permettrait à Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036, eh bien, il y aurait une impulsion peut-être à intensifier le combat dans les urnes, dans les élections locales du 13 septembre prochain ou lors de manœuvres politiques qui leur déplairaient. Donc une chute de Loukachenko, qui est évidemment parfaitement hypothétique pour le moment, serait quand même un double défi pour Vladimir Poutine, à la fois vis-à-vis du nouveau pouvoir en Biélorussie et aussi vis-à-vis de sa propre société.
Florent Parmentier, réaction.
Je pense que depuis 2016, on s'est interrogé sur les démocraties, leur capacité à faire face au populisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre Khabarovsk, la Biélorussie et Hong Kong, on voit que le problème est plutôt un problème de gouvernance, puisque les régimes autoritaires ont eux-mêmes, sous des formes différentes, et différents régimes autoritaires, différents types, ont des problèmes de finalement de lien avec leur population. Donc il y a quelque chose là-dessus qui est intéressant et qui mérite certainement d'être creusé. Pour l'instant, il est effectivement tôt pour qu'on sache qui y avait intérêt politiquement, ou en tout cas qui souhaitait le faire tomber. Est-ce que ça vient du pouvoir central et du plus haut niveau? On peut avoir des doutes. On peut dire aussi qu'il y a tout un tas d'enquêtes de corruption que faisait Alexei Navalny, qui gênait beaucoup de monde, et que la difficulté d'attribution, en fait, est une conséquence logique en fait de l'impunité et de l'absence de justice indépendante qui existe en Russie. Donc pour l'instant voilà, on a cette situation là. Il faudra observer, soigner d'abord, observer ensuite et voir le point. Quant à la menace que pourrait constituer la chute de Loukachenko pour Vladimir Poutine, il est vrai que ça peut constituer une forme de précédent pour les opposants en Russie, mais le pouvoir central russe pourra tout à fait dire bah, regardez le chaos qui s'est installé, regardez les privatisations d'usines qui vont mener à des chutes de revenus. Il y aura nécessairement en fait un temps d'adaptation important.
Olga Gilbelova, un tel scénario est inenvisageable. Svetlana Tsikhanouskaya est aujourd'hui réfugiée en Lituanie, membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. On ne peut pas imaginer que les services biélorusses l'empoisonnent, Olga Gilbelova.
Là, il faudra vraiment que Loukachenko demande de l'aide à Poutine. Donc, je pense que techniquement, c'est pas les services secrets biélorusses qui le feront. Donc, non, j'espère que ça n'ira pas dans ce sens-là. Mais, si vous voulez, en ce qui concerne le défi que ça pose le cas biélorusse à la Russie, effectivement, il y a cette peur de, mais cette peur qui est déjà quand même date des années 2000, de contagion de ce scénario des révolutions de couleurs. Ça veut dire que la mobilisation massive peut faire tomber ces régimes autoritaires qui aussi est très personnalisé quand même. Dans les deux cas. Mmh. Donc ça, c'est oui, c'est une forme d'antise donc qui pèse à Poutine. De l'autre côté, il ne tient pas forcément à Loukachenko en tant que chef de l'État biélorusse. Et ça peut même, sa chute peut représenter une forme d'opportunité, parce que justement, les privatisations, on a parlé donc du fait que l'Union européenne va pousser donc peut-être changer la politique économique, mais la Russie, ça fait des années que la Russie demande les privatisations. Pourquoi ? Parce que c'est les acteurs économiques russes qui seront le mieux placés pour donc investir dans les entreprises biélorusses. Et puis, il faut se souvenir aussi que ces quelques dernières années, la Russie a fait beaucoup de pression sur la Biélorussie pour justement une forme de vassalisation, sans remettre en question la souveraineté formelle, mais essayer d'annexer d'une manière très douce donc la Biélorussie à la Russie. Et la chute de Loukachenko peut être aussi une opportunité, ou dans les deux cas d'ailleurs, Loukachenko affaibli va... renoncer probablement plus facilement à un certain nombre donc de ses pouvoirs à condition de vouloir le garder.
Opportunité d'ailleurs pour la Russie, mais aussi peut-être pour la Russie, mais aussi peut-être pour l'Europe. C'est-à-dire que c'est peut-être un point sur lequel Bruxelles et Moscou pourraient se mettre d'accord. Ce mouvement de privatisation, de libéralisation de l'économie biélorusse. Et là, la chute de Loukachenko, on pourrait s'accorder sur ce scénario-là.
Tout à fait. Et puis il y a aussi le facteur, donc il y a aussi le facteur économique qui va jouer un rôle important en dehors de toute considération stratégique. C'est que la crise économique, il touche tout le monde, y compris la Russie et le Bélarus. Donc, et dans ces conditions de crise, la situation économique va se dégrader et la Biélorussie aura besoin de toute façon de soutien, soit européen, soit russe, ou dans l'idéal des deux côtés.
Merci beaucoup, Olga Gilbelova. Un grand merci également à Michel Etchaninov qui était à l'instant avec nous par téléphone. Je rappelle, Michel Etchaninov, je l'ai cité tout à l'heure dans la tête de Vladimir Poutine, c'était chez Actes Sud, mais aussi plus récemment, Les Nouveaux Dissidents. Un grand merci également à vous, Florent Parmentier, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur notamment des chemins de l'état droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. On était en plein dans ce sujet ce matin, c'était aux presses de Sciences Po. Un grand merci à tous les trois.
Бранеш свободы, то бяры, а морковка рухне, 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 и похавае свет стары. Ведали слово на памяти спел.
Voilà, une version revisitée de l'Estaca, chanson catalane. On vous mettra la référence de cette version-là sur le site de Culture Monde, sur la page de Culture Monde. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qu'attendre des États-Unis en cas de victoire de Joe Biden? Dans quel sens évoluera le pays si Donald Trump obtient un second mandat? Voilà les questions.
Dans la revue Foreign Policy, ne pas confondre, James Strobe tente de définir les changements que le candidat démocrate est susceptible d'impulser à la diplomatie américaine. Il s'appuie pour ce faire sur la personnalité de Biden, sur ses déclarations publiques et en croisant les prises de position de ses plus proches conseillers. Alors il remarque tout d'abord la fréquence dans ses discours de certaines expressions qu'on ne prononçait plus guère à Washington. Monde libre, démocratie. Leadership. Face à un Donald Trump dont le pragmatisme cynique confine au nihilisme, le challenger démocrate entend renouer avec les valeurs américaines traditionnelles. C'est un patriote sentimental de la vieille école, écrit notamment Traube, né durant la Seconde Guerre mondiale et dont la vision du monde s'est forgée durant les années 50. Ses plus proches conseillers le comparent d'ailleurs à Harry Truman qui eut à gérer les débuts de la guerre froide. Alors s'il est élu président en novembre, Biden est décidé à convoquer un sommet de la démocratie dès sa première année à la Maison-Blanche, une idée empruntée aux néoconservateurs. Pourtant, il sait aussi que l'époque n'est plus à l'élargissement démocratique ou encore aux croisades des années Bill Clinton, George W. Bush. Il a médité les échecs afghans et irakiens. Il ne s'agit pas d'un effort libéral pour exporter la démocratie, explique notamment Colin Kahl, qui fut son conseiller à la sécurité nationale lorsqu'il était vice-président d'Obama. Il s'agit de défendre les frontières du monde libre, car celui-ci, je cite toujours, est menacé, de l'intérieur par le populisme illibéral, de l'extérieur, par des guerres par procuration d'origine russe, ainsi que par l'effort croissant que fait la Chine pour exploiter sa puissance économique afin de réécrire les règles de l'ordre mondial. Fin de citation. Biden entend renouer avec les alliés traditionnels des États-Unis, les Européens en particulier, les liens abîmés par Donald Trump, c'est un atlantiste convaincu. Dans le Washington Monthly, Julie Smith, autre membre du cercle des conseillers proches de Biden, suggère que, durant les 100 premiers jours de son mandat, il se rende en Allemagne afin d'y prononcer un discours visant à redéfinir l'agenda transatlantique. Il est également désireux de rapprocher Washington de la Corée du Sud, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, les alliés traditionnels de l'Amérique, afin de rechercher entre démocraties des solutions communes aux défis transnationaux.
Et alors du côté de Donald Trump, Brice, qu'est-ce qui pourrait changer en cas de réélection ?
Je vous rassure, rien. Rien parce que selon Nadia Tchadloff, qui est l'ex-conseillère nationale adjointe à la sécurité du président sortant, si Trump est peu apprécié par l'establishment diplomatique américain, c'est simplement parce qu'il a remis à jour un logiciel américain qui retardait sur l'état réel du monde. Dans un article qui vient de paraître dans la revue, c'est bien cette fois-ci Foreign Affairs, elle estime que Trump a simplement rompu avec les illusions de ses prédécesseurs. Non, la mondialisation n'était pas un jeu gagnant-gagnant. Elle a créé des perdants, et en particulier les ouvriers américains. Non, la Chine n'était nullement décidée à se convertir à l'ordre libéral occidental et à se démocratiser au fur et à mesure qu'elle s'intégrait dans l'économie mondialisée. Au contraire, elle a persisté à piller les technologies occidentales sans ouvrir son marché intérieur. Non, les institutions internationales ne sont pas capables de régenter le système international car elles sont devenues de lourdes bureaucraties. La gouvernance mondiale est un mythe. Enfin, la dissémination des nouvelles technologies sur lesquelles les libéraux à la Bill Clinton misaient pour répandre la démocratie à travers le monde ont produit l'effet inverse. Les États autoritaires, comme la Chine, s'en servent pour contrôler leur population. Et tandis que Pékin interdit les réseaux sociaux américains sur son propre espace, il les utilise, comme Moscou d'ailleurs, pour déstabiliser les démocraties occidentales. La réalité du monde d'aujourd'hui, vue par les Trumpistes, donc, c'est la rivalité entre les puissances et un monde devenu de plus en plus hostile aux valeurs et aux intérêts américains. C'est pourquoi, sous la direction de Trump, les États-Unis ont rompu avec le programme de la mondialisation libérale et défendent dorénavant leurs intérêts avec réalisme, notamment face à Pékin. Il ne cherche plus à changer le régime politique chinois, mais tout simplement à obtenir un minimum de réciprocité en utilisant les droits de douane. La prépondérance militaire américaine est menacée, poursuit toujours Nadia Shadlow. La Chine et la Russie se sont dotées l'une et l'autre de systèmes de déni d'accès et d'interdiction de zone qui rendent inefficaces les avions de combat américains les plus modernes comme le F-35. Mais Trump a augmenté de 20% le budget du Pentagone depuis 2017. Elle ne concède, cette spécialiste de la défense républicaine, qu'une seule critique. Elle ne concède qu'une seule critique visant Trump. Il s'est trop reposé sur des partenaires régionaux comme la Turquie qui n'ont pas fait le job. Bref, il a tout bon, il n'y a qu'à continuer.
Merci Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.